Nelson Montfort, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de nous recevoir à France Télévisions. C'est un honneur pour nous vous inaugurer la nouvelle saison, la saison 4 de Devenir pour Agir. Merci beaucoup. Nous avons suivi cet été au niveau pour les JO. En tout cas, merci de nous consacrer un peu de votre temps. Je voudrais commencer tout d'abord par une citation d'Anthony Hawkins. Et voilà ce qu'il souligne, on lui demandait qui il était, et voilà quelle fut sa réponse. « Ce que les gens disent de moi et pensent de moi, ce n'est pas mon affaire. Je suis ce que je suis, et je fais ce que je fais. Je n'attends rien et accepte tout. Et cela rend la vie beaucoup plus facile. »
Ouais, je souscris à ça. Je souscris même complètement. C'est une très belle philosophie de vie. C'est une philosophie qui rend heureux. Et je suis d'autant plus d'accord avec ça que je n'ai pas toujours été comme ça. C'est venu au fil du temps. Et je souscris totalement à ce que dit ce penseur.
Ce penseur. Mmh. Et alors, quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle ?
Ben disons qu'après mes études de maîtrise en droit et IEP, Institut de sciences politiques dans Sciences Po Paris, je suis parti un an et demi aux États-Unis, comme j'ai la double nationalité, en tout cas la double culture, pour voir ce que ça allait donner. Puis je me suis rendu compte qu'au fil du temps, ce que je souhaitais faire n'était pas exactement ce qui pouvait m'être proposé. Donc j'ai vraiment pris des chemins de traverse. Et puis je me suis orienté petit à petit vers le journalisme. Je vais passer les détails, ça sera un petit peu long, mais je me suis en tout cas orienté petit à petit vers ce qui est devenu ma passion.
Et votre passion, alors comment définissez-vous votre passion qui est le journalisme ? Qu'est-ce que le journalisme ?
Je dirais l'ouverture aux autres, le sens de la rencontre, le plaisir de la rencontre. C'est quelque chose qui pour moi est très important. Je ne voulais pas, et je suis d'autant plus heureux de le dire maintenant que nous avons eu un an et demi de non-sociabilité. Et pour moi, ça a été extraordinairement pesant. Depuis mon plus jeune âge, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu aller à la rencontre des gens. Alors, il se trouve que dans le métier que j'exerce, évidemment, les gens me le rendent bien. Mais même bien avant d'être journaliste, et surtout bien avant d'être à la télévision, j'étais passionné par l'itinéraire d'autrui. J'écoute beaucoup et ça me plaît bien.
Alors, vous dites l'itinéraire d'autrui. Qu'est-ce qu'une personne pour vous ? Autrui est une personne. Comment définissez-vous une personne ?
Je pense que chaque personne a son existence, a son itinéraire propre. Je ne suis pas là pour juger si tel est moins intéressant que d'autres. Et vous savez, il y a une magnifique phrase qui date de 1666. D'ailleurs, c'est une plaque qui est dans l'église de Baltimore aux États-Unis qui s'appelle « You are a child of the universe ». No less than the trees and the birds in the sky, you have a right to be here. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins, je résume, oui. Pas moins, pas plus important que d'autres, et vous avez le droit d'être ici. Eh bien, j'aime cette phrase, je souscris complètement à cette phrase.
Et donc, si on a chacun a le droit d'être ici, c'est que tout le monde est unique.
Oui,
quelle est la force de cette unicité ?
D'une certaine manière, chacun a son itinéraire, évidemment. Tout en parlant avec vous, je réfléchis à cette société qui est parfois devenue si violente. Et évidemment, on va mettre de côté justement tous ces violents. Mais voilà, en dehors de cela, je pense que chacun a son unicité, son itinéraire propre qui mérite d'être découvert. Vous savez, moi, il m'arrive souvent d'être dans des réunions, dans des déjeuners, dans des dîners. Et il se trouve que je pose beaucoup plus de questions qu'on m'en pose. Peut-être que je ne laisse pas le temps qu'on me pose des questions. Et à la fin, je me souviendrai toujours, je parlais avec un... Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction dans une banque ou dans une entreprise. Et il me dit, mais je ne comprends pas, vous avez un métier tellement passionnant et je vous ai posé aucune question. Et moi, qui ai un métier somme toute banal, vous m'avez posé tellement de questions. C'est venu comme ça dans la conversation. Et surtout, j'écoute les gens. Alors, naturellement, il y a des personnes qui ont été peut-être plus intéressantes que d'autres. Mais je crois avoir cette faculté d'écoute qui, je pense, ressemble au respect.
Vous écoutez, vous n'entendez pas. Vous écoutez.
C'est une bonne nuance. C'est comme pour certaines musiques.
On va en
c'est
reparler
comme dans
après
certaines
la musique.
Musiques. Je pense que j'écoute, oui, effectivement. C'est une bonne nuance, j'aime bien. C'est pas la même chose. Hein.
C'est pas la même chose.
Non, effectivement, je suis d'accord avec ça. J'écoute plus que je n'entends. Ouais.
Et comme dans le sport, quand vous commentez, est-ce que vous regardez ou vous voyez? Parce que là aussi, c'est une nuance.
Oui, ça ressemble un petit peu entre l'écoute et l'entente. Oui. Comment? Vous savez, je suis assez comment? J'ai un peu de recul sur tout cela. Vous savez, c'est vrai que j'ai du mal parfois à comprendre ces phénomènes de masse extraordinaires. C'est surtout le football qui fait ça. Mais j'ai du mal à comprendre. Mais je respecte ça. Je veux dire, donc. Moi, les émotions que j'ai, ce sont plutôt des émotions intimes. Par exemple, s'il y a un grand match, moi, ça ne me dérange pas de regarder tout seul ou à deux, pour moi, en plus, ça serait un peu difficile pour différentes raisons, mais plutôt que d'être avec 1000 personnes comme ça qui hurlent, etc. Et donc, pour un événement de sport, je le regarde. Mais je le vois aussi. Je fais moins la distinction.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de dire que vous préférez parfois regarder un match de foot un ou deux que dans une grande foule.
Oui, parce que les émotions sont intimes. Les émotions. Vous allez avoir des gens qui vont être terriblement déçus et d'autres qui vont être fous de joie. Oui. Dans les deux cas, je trouve que ce sont des émotions intimes. Et moi, je les vis beaucoup plus en solitaire qu'en groupe. Mais d'autres personnes, oui, d'autres personnes ne sont pas du tout comme ça. Et moi, c'est mon cas.
Et alors, est-ce qu'on est dans un cercle anthropologique, donc devenir pour agir, la connaissance de l'humain, est-ce qu'à travers votre profession de journalisme, vous apprenez à vous connaître quotidiennement? Est-ce que le journalisme est un miroir?
Je pense. J'apprends énormément à connaître les autres. Et puis de cette manière, aussi, on s'enrichit au contact des autres. On ne s'enrichit pas avec une forme de narcissisme de soi-même. Et donc, j'apprends énormément au contact des autres. Donc oui, pour répondre à cette question, oui certainement. Oui.
Et alors, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Le sport, on pourrait dire que c'est l'amour de quoi? Vous qui êtes journaliste sportif.
Pour moi, même si c'est une notion peut-être un petit peu surannée pour certains, moi je crois beaucoup à la notion de fair play. Vous ne me verrez jamais être chauvin dans mes commentaires de sport. Je souhaite la victoire, pour résumer, je souhaite la victoire des nôtres, mais pas au détriment de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, comme je commente le patinage, je souhaite, ce qu'à Dieu ne plaise, le succès d'un Français, mais pas sur la chute d'un Russe. La plupart du temps, c'est l'un Russe. Oui. Mais voilà. Ou d'un Américain, ou d'un Japonais, que sais-je. Donc, voilà, je souhaite que celui que je soutiens, ma nationalité, peu importe, etc., fasse le mieux possible, mais pas au détriment de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un beau vainqueur, mais qu'il y a un beau deuxième. Ça, c'est ma philosophie profonde, non seulement dans le sport, mais dans la vie.
Et alors, dans les commentaires sportifs que vous faites, quelle est la place que vous laissez au silence pour permettre à la fois aux spectateurs de participer derrière sa télévision et à vous, de profiter du moment présent?
Oui, je viens de laisser passer 2-3 secondes de silence.
C'est ça qui est merveilleux.
Et c'était volontaire, naturellement. Je pense que tout est dit dans ce silence. Le silence, c'est ce philosophe que vous connaissez évidemment par cœur, Lao Tzu, qui disait « Le silence, le seul ami qui ne vous trahit jamais. » Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Pour répondre directement à votre question, dans un commentaire de sport, on ne reprochera jamais de ne pas assez parler. On reprochera toujours de trop parler. Et moi, il m'arrive très souvent de mettre comme ça une grande pancarte où il y a marqué silence. Silence, ça veut dire, surtout quand je commande peut-être dans le patinage avec Philippe Cantelero, etc., qui est assez volubile, etc. Et ça passe très bien. Le tennis n'est pas un sport. Le tennis, l'action se suffit à elle-même, n'est-ce pas? Dans la plupart des sports, l'action se suffit à elle-même. Savoir respecter ces silences, pour moi, est très important.
Et dans l'athlétisme aussi?
Absolument. D'ailleurs, ce qu'il y a de plus impressionnant dans l'athlétisme, une finale du 100 mètres, ça dure 10 secondes. C'est le silence qui s'établit dans un stade, même s'il y a 80 000 personnes, juste avant le départ. Vous entendez le spectateur qui fait « chut », il n'a même pas besoin de le faire. Et là, juste avant le coup de pistolet du starter, vous avez un silence qui doit durer, je ne sais pas, peut-être 4-5 secondes, mais c'est merveilleux.
Oui.
C'est merveilleux.
Alors, ce qui est...
On a forcé le démarrage. Le téléphone s'est allumé.
C'est vrai?
Oui, c'est bon. Alors, passez quand vous avez terminé.
Merci, Linda.
Alors, ce qui est merveilleux, c'est que dans le sport, les valeurs du sport sont prônées. Nelson Montfort, vous êtes un homme de valeurs. Vous êtes un homme d'humanité, vous aimez l'humain, vous aimez ça, et ça se sent, vous aimez la rencontre. Quelles sont les valeurs que vous prenez dans le sport et que vous voulez à travers votre métier de journaliste?
Là, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le respect de l'adversaire, le respect du public, tout ce qui va à l'encontre de ça, je supporte difficilement les sifflets quand c'est une autre équipe que la vôtre qui attaque, etc. Je supporte difficilement les huées quand il y a une tentative de pénalité au rugby ou de je ne sais pas, de pénalty au football. Je supporte difficilement les colibets et les injures vis-à-vis des arbitres. J'ai beaucoup de mal avec tout ça. J'ai beaucoup de mal avec tout ça. Pour moi, le sport est un terrain d'entente et d'amitié. Encore une fois, je sais très bien que ce que je suis en train de vous dire n'est pas du tout dans la mouvance actuelle. Mais ça, franchement, Emmanuel, vous commencez un peu à me connaître, je le pense profondément.
Oui.
Je le pense profondément. Pour moi, le sport n'a aucun cas. Il y a suffisamment, malheureusement, de violence sur Terre aujourd'hui pour que le sport n'en fasse pas partie. Le sport ne doit en aucun cas être synonyme de violence. En aucun cas. En aucun cas.
Et alors, vous, est-ce que vous êtes... Parce que voilà, vous commentez le patinage, à la fois l'athlétisme et le tennis. Et est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes le porte-parole ou l'ambassadeur des talents des sportifs?
Oui, en tout cas, j'en suis le passeur d'émotions. Donc appelez ça comme vous le souhaitez, peut-être effectivement un ambassadeur aussi, parce qu'au fond, un nageur qui sort du bassin, un athlète qui termine sa course, un tennisman qui termine son match, un patineur qui termine sa démonstration, je me suis souvent rendu compte que le premier, je dis bien le premier à qui il parle, avant sa famille, avant ses amis, etc., c'est moi, par la position que j'occupe au bord de la piste, etc., avec le micro, etc. Donc à partir de là, oui, je suis un ambassadeur de ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Évidemment, je préfère me réjouir d'un succès que de compatir à une défaite. Mais, compatir à une défaite, mais compatir de façon sincère, évidemment, c'est ce qui est le plus difficile et c'est ce qui est de plus, c'est ce qui récompense le plus. De consoler, parce que ça veut dire que le sportif doit être en pleine confiance. Hein. Tu sais, celui-là, bon, je ne connais pas. Non. Voilà. Et il m'est arrivé des dizaines de fois de vraiment consoler, voire même de, enfin, il y a plein d'images, des témoignages, de prendre dans mes bras des... Alors j'ai eu une épaule protectrice, une main protectrice sur une épaule, j'imagine que c'est quelque chose qui compte, même si on n'est pas intime, mais la personne va le sentir, cette sincérité, ce regard, etc. Encore une fois, je préfère me réjouir d'un succès, mais les plus belles interviews, en tout cas celles des moments les plus forts que j'ai faites, sont plutôt avec des battus qu'avec des vainqueurs, parce que c'est plus difficile. Le vainqueur, tout le monde,
oui.
Mais c'est plus difficile.
C'est vrai, on y pense.
C'est beaucoup plus difficile. Ouais.
Et en fait, le mot qui vous caractérise le plus, et vous venez de l'incarner, en tout cas par les exemples que vous donnez, c'est la bienveillance. La bienveillance, je trouve que c'est tellement un beau mot qui vous caractérise. Vous veillez sur le bien de l'autre, finalement.
Mais de cette manière-là, je veille sur mon propre bien. Je veux dire, je ne suis pas du tout dans tout ce qui est ces réseaux, ce qu'on appelle volontiers les fléaux sociaux. Comme moi, je les appelle comme ça, les fléaux sociaux d'aujourd'hui, avec ces dénonciations, cette méchanceté caractérisée. Je ne suis pas du tout comme ça. Je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas du tout besoin de ça pour être heureux. J'ai même besoin de l'inverse. Et donc, je suis beaucoup plus heureux avec ce bien joli mot de la langue française qui est la bienveillance. Ouais.
Et comment définissez-vous le bonheur? Être heureux pour vous, c'est quoi?
Je ne suis pas assez naïf pour penser qu'on peut être heureux tout le temps, etc., avec un grand sourire banane. Non. On ne peut être heureux qu'à certains instants. Alors, évidemment, c'est le bonheur permanent ne peut pas exister. Ou alors, c'est vraiment pour... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que Peut-être que des moines qui oui, peut-être au fond que des moines qui ont choisi donc la solitude de l'abbaye, etc., et d'être tout le temps en contact avec le Seigneur, peut-être sont-ils heureux en permanence. J'ai d'ailleurs souvent réfléchi à ça. Mais en dehors d'eux, je ne vois pas vous et moi, les personnes qui nous entourent, être heureux en permanence, ça n'existe pas. Oui. Mais des instants de bonheur sont très très forts, oui, très très forts.
Alors vous parlez des moines, vous avez la foi, Nelson Montfort ? Vous croyez
ou... Alors, je suis de confession protestante. D'ailleurs, nous autres protestants considérons peut-être la religion protestante davantage comme une philosophie que comme une religion. C'est drôle, j'ai souvent réfléchi à ça. Un protestant vous dira rarement de quelqu'un, cette personne est gentille. Eh bien, cette personne est intelligente. Mais l'intelligence, c'est aussi l'intelligence du cœur. Et oui, pour répondre à votre question, oui, je crois... Les événements récents font que voilà que c'est la volonté de Dieu est parfois bien cruelle, mais oui, je crois disons en quasi permanence, et parfois je m'efforce de croire.
Et vous vous efforcez de croire, et quelle est la place de l'intériorité dans votre
votre énorme vie? Elle est énorme, vous le sentez.
Elle est énorme.
Elle est énorme, je peux pas dire plus que ça.
Ça me fait penser à Saint Augustin qui parle de cette petite voix intérieure au plus profond de nous-mêmes, oui. Que nous devons écouter pour faire le bien.
Mais j'ai beaucoup lu Saint Augustin étant plus jeune, et j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup aimé.
Alors Nelson Montfort, on passe à le second pan de notre interview. Vous êtes un grand amoureux de la musique.
Oui.
Vous aimez la musique classique. Oui. Et Kant souligne que la musique, c'est la langue des émotions.
Oui.
Et alors, comment
réagissez-vous? Mais pas seulement la musique classique. Alors, effectivement, je suis un grand amoureux de la musique classique. C'est venu un petit peu sur le tard, parce que c'est venu au moment où j'ai commencé à commenter le patinage artistique, où on entend essentiellement beaucoup de musique classique et non des moindres. Mais avant cela, et même toujours et depuis, je suis également un grand amoureux de la chanson française. Alors là, je n'hésite pas à dire de la chanson française d'avant. Des artistes comme Georges Brassens, comme Jean Ferrat, comme Charles Trenet, autour desquels j'ai non seulement écrit des biographies, mais proposé des spectacles musicaux.
Et chanter aussi.
Et chanter absolument, continue à accompagner ma vie. Je ne fais pas de distinction entre le plaisir que l'on peut avoir en écoutant un concerto de Mozart ou La Mère de Charles Trenet ou L'Orage de Georges Brassens. Pour moi, c'est un plaisir différent, mais c'est un plaisir qui se poursuit, oui.
Et comment définissez-vous la musique ?
Elle accompagne ma vie, je ne pourrais pas vivre sans. Je ne pourrais vraiment pas vivre sans. Et de moins en moins. Il y a deux choses avec lesquelles je pourrais pas ne pas vivre, c'est la musique et la littérature. Et d'ailleurs, pour moi, ça va. Il y a des personnes qui ne peuvent pas lire tout en écoutant de la musique. Ça, j'avoue, j'ai jamais très bien compris pourquoi. Alors, peut-être pas avec des chansons rock, là, je comprends que bon.
Oui.
Mais de lire en écoutant de la musique classique, pour moi, c'est le bonheur absolu. Emmanuel, c'est le bonheur absolu. Je crois vraiment que ce que je préfère dans la vie, de tout, c'est de lire en écoutant de la musique. Quel plaisir plus fort pouvez-vous avoir? Quel plaisir plus fort?
Oui. Mais alors, est-ce que l'on peut dire que la littérature, c'est la musique des mots?
Ah oui, ça c'est très joli. Ça c'est très joli. Et d'ailleurs, je pense que, bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de micro, si on tourne le disque, on n'avait pas la possibilité d'écouter comme ça. Mais je sais que beaucoup de grands écrivains, je pense à Georges Sand, je pense à Alfred de Musset, etc., écoutaient de la musique. Et d'ailleurs, souvent, c'était Chopin ou Liszt qui jouait. Donc ça devait pas être trop mal. Voilà, au piano, et Georges Sand écrivait. Il y a des témoignages là-dessus, à Nohant et tout. Donc, oui.
Mais alors, vous mettez, je dirais, vous réactualisez Brassens, Charles Trenet, etc.
Ouais.
Quelle est cette place de la mémoire, de l'histoire dans les nouvelles générations, pour les nouvelles générations?
Alors ça, c'est une très bonne question, Emmanuel, et malheureusement, cette place est mince. D'ailleurs, je connais assez bien le panorama des radios, on entend très peu ces artistes, très très peu.
Et pourquoi?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, ou plutôt, enfin, ce que je sais ne me plaît pas, c'est que vous avez aujourd'hui une sorte de comité de programmation qui est souvent en fait de très peu de personnes, très peu de personnes, et qui décide pratiquement du goût des autres. Et ça, je ne supporte pas ça. Est-ce que, comme je ne supporte pas d'ailleurs le fait qu'une partie de la population, et au-dessus de, je ne sais pas, 50, 60 ans, que sais-je, soit mise de côté, parce que eux aiment, et s'ils ont la curiosité de faire passer aux jeunes générations, leurs jeunes générations, leurs enfants aimeront également. Aimeront également. Donc, je suis très, très, enfin, je suis très révolté, le mot n'est pas trop fort, par les programmations qu'on nous impose aujourd'hui, parce que je suis persuadé que si les jeunes générations écoutaient certaines chansons des artistes dont il y en a d'autres, de Barbara, Moustaki, il y en a beaucoup d'autres, ils les aimeraient énormément, mais encore faut-il qu'ils puissent les entendre.
Oui.
Et qu'ils puissent les écouter.
C'est ça.
Pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques minutes.
Mais Julien Green souligne que la musique est au-delà des mots. Ouais. Nelson Montfort, préférez-vous, je dirais, le côté instrumental ou le côté instrumental et des chansons en même temps?
Vous savez, comment Yasmina Reza, qui est une dramaturge que vous connaissez certainement, oui. Que je connais très bien, c'est même une amie d'enfance, disait la même chose sur Beethoven. Notamment, elle faisait allusion au Hammer Clavier de Beethoven, qui pourtant n'est pas son œuvre la plus facile et certainement pas la plus mélodique. Mais elle disait que ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Ça dépasse la littérature, ça dépasse Molière, Balzac, Hugo, Zola, que sais-je. Ça dépasse tout. Donc, ce que dit Green est partagé par une génération un peu plus jeune. Je n'aime pas faire de classement. Si vous me disiez, est-ce qu'il faut que je renonce à la littérature ou renoncer à la musique, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Pour moi, c'est inconcevable de vivre sans les deux.
Ce sont vraiment vos deux...
Ah oui, ce sont les piliers de mon existence et sont devenus de plus en plus.
Oui, et alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le sport et la musique? Tous deux, finalement, touchent au cœur, vont toucher les émotions des...
Oui, c'est exact. D'ailleurs, je pense que le sport peut-être la gestuelle du sport peut-être d'une certaine manière musicale. Et oui, je suis d'accord avec ça.
Parce que le sport est artistique.
Ah, complètement.
Est-ce que vous êtes artiste, Nelson Montfort?
Je suis artiste, en tout cas, dans l'âme, c'est certain. Je ne suis pas artiste, hélas, dans l'exécution. Bon, je suis auteur, je ne me considère pas comme écrivain, mais je suis auteur, j'y mets beaucoup, beaucoup de moi-même. Là, je sors un livre moins de 2 mois, qui va s'appeler Mémoires Olympiques, donc suite aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais où je retrace, ça sort chez Michel Lafon, où je retrace l'histoire un peu des Jeux Olympiques depuis leur début, avec plein d'anecdotes, etc. Donc, appeler ça être artiste, je ne sais pas, mais enfin voilà, y mettre de mon mieux, c'est ce qu'essayent de faire les artistes.
Alors, ce que vous dites me fait penser à Platon, qui souligne que la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La musique fait voyager. La musique vous fait
oui,
voyager.
Elle fait voyager. Quand vous allez dans un pays étranger, par exemple, vous voulez voir une pièce de théâtre, c'est difficile. Si vous allez, je sais pas, en Serbie voir une pièce de théâtre, vous n'allez pas y aller. Parce que, en revanche, moi, je suis allé à Serbie, à l'opéra de Belgrade, pour voir Madame Butterfly, vous voyez que c'est international, de Puccini, mais Madame Butterfly qui se passe au Japon, comme vous le savez, pourrait se passer en Russie, enfin, vous suivez cette œuvre où que vous soyez, et encore là, il y a les paroles, parce que bon, il y a les paroles italiennes qui étaient traduites en serbe, avec une sorte de, enfin, ce qu'on appelle les surtitrages. Mais la musique de Bach, de Mozart, de n'importe quel pays du monde, il n'y a pas besoin de la traduction. Il n'y a pas besoin de la traduction.
Donc elle dépasse les frontières, elle est vraiment universelle.
C'est la seule, parce que le théâtre ne le peut pas, le cinéma ne le peut pas, la littérature ne le peut pas, mais la musique le peut.
Et la musique le peut. Donc est-ce qu'on pourrait dire que la musique, c'est vraiment le plus bel art, le plus grand art par excellence qui puisse réunir finalement l'humanité.
Certainement.
Et en ces temps que nous venons de passer, la musique aurait été, en tout cas a été peut-être le facteur qui a réuni les personnes alors qu'on était tous confinés chez nous. Peut-être.
C'est drôle parce que vous en dites un peu le lien qu'il peut y avoir entre la musique et le sport. En tout cas, l'UEFA, l'Union de football européenne, l'a bien compris, puisque l'indicatif des matchs, vous savez, quand il y a le Real de Madrid, etc., le Bayern de Munich, etc., l'indicatif avant la retransmission, c'est un extrait de Zadok the Priest de Handel. Donc, bon, je pense que 90% des gens, quand ils écoutent, c'est-à-dire ne savent pas ça. Oui. Mais je pense qu'ils l'écoutent quand même avec un certain plaisir. Ne serait-ce que ça, ah, mais qu'est-ce que c'est très beau. Comme d'ailleurs, bon, maintenant un peu moins, le fameux indicatif de l'Eurovision était le Te Deum de Charpentier.
D'accord, oui, c'est ça. Oui,
donc,
oui,
voilà, c'est, il peut y avoir des liens.
Mais alors, peut-on dire qu'il y a une bonne et une mauvaise musique pour vous?
Évidemment, un cliché consisterait à vous dire que chaque forme de musique a sa valeur, etc. Bon, maintenant, moi je vous réponds sincèrement, vous n'allez pas à pouvoir comparer un concerto pour piano et orchestre de Mozart avec un rap d'aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est impossible. Donc, mais encore une fois, je ne pouvais pas une réponse. Politiquement correct, mais non, pour moi, toutes les musiques ne se valent pas. Je ne veux pas me faire que des amis avec ça.
Et quelle est la force de la musique pour vous?
Celle de pouvoir être gai dans des moments tristes et être triste dans des moments gais. Et la deuxième solution n'est pas si anodine qu'elle en a l'air. Parce que celle de pouvoir être un peu mélancolique quand tout va bien, c'est aussi une force. Et celle de pouvoir être gai quand on est mélancolique, pour moi, c'est lié. Et ça, ce sont vraiment les émotions de la vie.
Oui. Vous êtes un homme d'émotions. Vous êtes un homme souvent ému devant la beauté des...
Ah oui, beaucoup trop d'ailleurs. Beaucoup trop par rapport au métier que j'exerce, qui est un métier assez dur, quoi. Donc, je suis un peu en décalage avec ça. Mais c'est pas à mon âge que je vais changer. Et puis, bon, visiblement, ça n'a pas l'air de trop déplaire au public.
Non, donc, vous êtes un passeur d'émotions.
Oui, j'aime bien ce terme.
Vous êtes un passeur d'émotions.
Je suis un confesseur, mais pas un confesseur religieux. Oui. Mais un confesseur et donc un passeur d'émotions.
Et alors, est-ce finalement la responsabilité que vous avez en tant que journaliste? Parce que la grande philosophe Hannah Arendt souligne que la responsabilité du journalisme se fait dans l'attraction de la pensée. C'est-à-dire que finalement, l'attraction de la pensée, c'est à la fois un amusement et une rigueur que vous laissez passer à travers vos commentaires que vous faites, etc.
Oui, je pense que, bon, ça, ce sont des mots qui sont des mots très profonds, etc. Moi 90% ce que je commente, c'est du sport. Pas 100%, 90%. Donc, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je prends le recul nécessaire pour me dire qu'au fond, ce n'est que du sport. Et que je pense que les gens qui suivent le sport, c'est avant tout pour essayer de passer des bons moments. En tout cas, je le pense vraiment. Donc, si je leur fais passer des bons moments, eh bien, je suis un homme heureux.
D'accord. Voilà. Et quelle est la place de l'adaptabilité que vous avez dans votre profession? Est-ce que vous adaptez énormément?
Elle est très forte parce que, oui, elle est très forte. On ne s'adresse pas à... Parce que parfois, ce sont toujours des millions de téléspectateurs. Quand je dis des millions, c'est des millions. Hein, donc, on ne s'adresse pas à des millions de téléspectateurs comme... Voilà, par exemple, avec vous, c'est un entretien quand même assez intime. Je ne vais pas dévoiler mes sentiments comme ça devant des millions de personnes. Oui. Jamais. Jamais. Mais je pense que les gens qui suivent sont capables de deviner quelle est la personnalité des commentateurs sportifs qui leur sont le plus chers. Et comme apparemment les différents sondages me mettent assez bien placé, pour ne pas dire très bien placé, dans le cœur des téléspectateurs, voilà, je pense que c'est peut-être aussi pour ça.
Oui. Alors Nelson Montfort, l'interview va bientôt s'achever. Quel est le but de votre vie? Le but que vous êtes fixé, je pense au boxeur Mohamed Ali qui souligne ce qui me garde motivé, c'est le but que je me suis fixé, c'est-à-dire de gagner.
Mais c'est pas n'importe quel exemple, parce que c'est un champion dont la notoriété a largement dépassé les frontières de son sport, parce que c'était un humaniste extraordinaire. J'ai lu sa biographie, j'ai vu le film sur sa biographie. Pour moi, c'est un homme. Lui, j'aurais vraiment aimé le rencontrer. J'aurais vraiment aimé le rencontrer. Il fait partie des quelques personnes. Il y en a pas 50. Mais lui, j'aurais aimé le rencontrer. Donc tout ce qu'il dit, j'y souscris. C'est un homme pour lequel j'ai une très profonde admiration.
Alors Nelson Montfort, ma dernière question s'adresse à tous les milliers de jeunes et d'étudiants qui vous regardent, aujourd'hui. Quel est le message d'espérance que vous pouvez leur offrir alors qu'ils viennent, comme nous, de passer des moments, plus d'une année difficile? en cette rentrée 2021.
Il y a une chanson de Jean Ferrat, dont nous avons évoqué un petit peu Jean Ferrat, que j'adore, qui s'appelle Le Grillon, qui n'est pas une de ses chansons les plus connues, mais qui dit il ne savait pas que c'est au bout de la nuit noire qu'on peut voir l'aube se lever. J'aime beaucoup parce que tout est dit. En plus, il y a une très belle musique. Écoutez Le Grillon. Et voilà, c'est au bout de cette nuit qui a duré un an et demi et qui il y a encore des relents, etc. Qu'on peut voir l'aube se lever. Et je pense que cette aube sera encore beaucoup plus belle qu'une aube normale. J'en suis. Mais ce que je dis, je m'adresse aux jeunes qui nous suivent. Mais c'est quelque chose que j'ai profondément en moi. Je me dis la même chose. Enfin, vous le sentez.
Oui, ça se sent, ça se voit. Voilà, c'est voilà. Nelson Montfort, un très grand merci pour votre humanité, vraiment votre belle humanité, votre regard pétillant, votre joie transmissible. Et je voudrais terminer par Aimé Jacquet, que vous connaissez bien. Et voilà ce qu'il dit: donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Nelson Montfort, permettez-moi de faire ces mots je vous les offre: donner, recevoir, partager. C'est ce qui est la bienveillance, c'est ce que vous venez de m'offrir aujourd'hui. Un infini merci et bonne année pour la. Et nous serons heureux de vous
suivre. Bonne rentrée à vous.
Merci beaucoup, merci Nelson.